Bonsoir à tous. Nous serons dans un instant à Barcelone avec notre envoyé spécial Thibault Lefebvre. Manifestation monstre dans la capitale catalane contre les condamnations prononcées par la justice contre des leaders indépendantistes. Encore des affrontements ce soir dans la capitale. L'offensive turque dans le nord-est syrien, un vrai faux cessez-le-feu, des combats et l'indignation sans lendemain des Européens, dont Emmanuel Macron. Précision d'Istanbul, Dan Andlauer. Entre autres conséquences de cette guerre, l'inquiétude de cette famille d'une jeune Française réfugiée dans le camp de Halol qui saisit la Cour de justice de la République. Omission de porter secours. Explication d'Antoine Geoffin. Patrick Balkany, condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. 4 ans ferme sans mandat de dépôt pour son épouse Isabelle Balkany. Compte rendu d'audience de Florence Turme. Grève générale et manifestations de grande envergure à Barcelone à l'appel des partis et associations indépendantistes. 525 000 participants selon la police municipale à ces mobilisations contre la condamnation de dirigeants catalans par la justice espagnole. Star reportage à Barcelone de Thibault Lefebvre.
Les affrontements se concentrent pour l'essentiel à un seul endroit, entre la place de la Catalogne et la place d'Urquinaona, avec quelques milliers de manifestants, souvent très jeunes, qui défient les forces de l'ordre. Ils ne portent plus, comme tout à l'heure, les couleurs rouge, jaune et bleu de la Catalogne, mais des pulls noirs et des masques. Ils se revendiquent antifascistes. Depuis plus d'une heure maintenant, ils jettent des pierres, ils embrasent des barricades. La rue est véritablement coupée en deux par une large barrière de feu. Mais pour Andreu, manifestant de 23 ans, la violence est un piège.
La police, vraiment, elle laisse les manifestants brûler des choses et ils n'interviennent pas. Un peu le problème qui se passe ici, c'est qu'on n'a pas vraiment un objectif et un but, car on est désespéré, on ne sait pas quoi faire. Et on pourrait dire que la société catalane, surtout les jeunes, ils sont en train de tomber sur le piège de l'État espagnol. Car l'État espagnol, il attend seulement qu'il y ait une victime ici, un acte de violence pour pouvoir établir l'état d'urgence et reprendre le gouvernement catalan.
La situation se tend depuis quelques minutes avec à l'instant un mouvement de foule après une charge policière. Ce qui change par rapport aux autres soirs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et notamment tous les manifestants qui se revendiquent pacifistes. Ils affirment ne pas partager les mêmes modes de contestation que les plus violents et pour le moment, ils restent à l'arrière au niveau de la place de la Catalogne.
Thibault Lefebvre à Barcelone, une folie militaire. C'est ainsi que le chef de l'État français qualifie l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie, Emmanuel Macron, qui lors d'un conseil européen annonce qu'il rendra prochainement une visite à Recep Tayyip Erdogan, accompagné d'Angela Merkel et de Boris Johnson. Le président turc qui menace ce soir de donner l'ordre de livrer de nouveaux batailles dès mardi soir si les forces kurdes ne se retirent pas de la zone de sécurité telle que négociée entre autres par le vice-président américain Mike Pence. C'est une correspondance d'Istanbul, Dan Andlauer.
Une vaste bande de terre de 32 km de profondeur sur 444 km de long collée à la frontière turque dans le nord de la Syrie entre le fleuve Euphrate et l'Irak. C'est là que Recep Tayyip Erdogan veut créer une zone dite de sécurité. Le chef de l'État turc y voit deux avantages, chasser les forces kurdes du voisinage de son pays, puis y renvoyer entre 1 et 2 millions de Syriens sur les plus de 3,5 millions réfugiés en Turquie. Dans l'immédiat, le président turc peut crier victoire. Washington a acté le principe de cette zone tampon et aux conditions d'Ankara. Mais beaucoup d'inconnus demeurent. Où vont se rendre les forces kurdes qui se retirent de la zone? Qui la contrôlera? Ankara affirme que son armée va s'en charger, mais on sait que le régime syrien ne veut pas d'une présence durable des Turcs sur ses territoires. Quid des grandes villes de Manbij, Kobané, Kamishlo? Il va falloir négocier pied à pied avec le président russe Vladimir Poutine, parrain du régime de Damas. Recep Tayyip Erdogan le rencontrera mardi à Sochi. Dans l'hypothèse enfin où ces détails seraient réglés, on voit mal comment la Turquie pourrait financer seule les infrastructures nécessaires au retour des réfugiés. Ankara regarde du côté des Occidentaux qui n'ont pourtant aucune intention de mettre des milliards dans le projet de Tayyip Erdogan. Sans même parler des règles de droit humanitaire qui interdisent de renvoyer de force des Syriens dans leur pays, qui plus est dans une zone dont l'immense majorité n'est même pas originaire.
Et sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent. Des frappes de l'aviation turque et des tirs d'obus des supplétifs syriens ont tué 14 civils et 8 combattants des forces kurdes dans le village de Babelkher et ses environs. Information livrée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'appel à l'aide de Pascal Descamps, sa fille partie rejoindre Daesh en 2015, est retenu depuis 8 mois dans le camp d'Alol avec ses 4 enfants en bas âge. Alol, nord-est de la Syrie, camp tenu par les Kurdes, est menacé par l'offensive turque sur la région. Avec cet assaut, la situation sur place est en effet aggravée. Pascal Descamps va saisir la Cour de justice de la République contre 2 ministres, Nicole Belloubet et Jean-Yves Le Drian. Antoine Geoffin.
Depuis le début de l'offensive turque, la vie s'est durcie dans les camps tenus par les Kurdes. Peu de nourriture, raconte Pascal Descamps, qui a parlé avec sa fille. Les ONG se sont retirées des zones militarisées, on manque de soins. Des bombardements auraient touché des citernes d'Alol et l'eau, déjà peu disponible, l'est encore moins et souvent contaminée. Beaucoup d'enfants tombent malades. Outre l'urgence sanitaire, c'est la sécurité qui inquiète la jeune grand-mère. Elle a donné des conseils à sa fille.
Les ONG comme Human Rights Watch et l'UNICEF nous ont dit de dire à nos filles de surtout que s'il y avait une débâcle ou que les Kurdes se désistaient de leur rôle de garde, eh bien qu'elles restent dans les camps à attendre les Turcs, de pas aller dans la nature parce que il y aurait des gens de Daesh, mais il y a aussi des milices, il y a des gens qui cherchent à faire de l'argent, qui revendraient des femmes. Mes petits-enfants n'ont rien à faire là-bas.
Le cessez-le-feu dans la région, c'est justement une opportunité de rapatrier sa famille. Il y a urgence, insiste son avocat Emmanuel Daoud. Il va saisir la Cour de justice de la République et porter plainte contre Jean-Yves Le Drian et Nicole Belloubet pour omission de porter secours.
Il faut que ces ministres sachent qu'ils porteront personnellement la responsabilité juridique, morale du décès du moindre enfant français dans ces camps. Ils ont pour le moment fait le choix du déshonneur, de l'indignité et aussi celui de ne pas respecter le droit européen et le droit international et les conventions internationales qui ont été ratifiées par la France. Il ne faut pas, parce que ces enfants sont à des milliers de kilomètres, que nos responsables politiques fassent le choix, encore une fois, de la lâcheté.
Depuis juillet, Jean-Yves Le Drian fait l'objet de plusieurs plaintes similaires. 11 familles de djihadistes ont déjà fait appel à la Cour de justice de la République.
Antoine Geoffin, le Premier ministre libanais donne 3 jours à la coalition gouvernementale pour afficher son soutien aux réformes économiques promises et laborieusement enclenchées, de Tyr au sud jusqu'à Tripoli, la grande ville du nord, scène de révolte, émeute, affrontement avec les forces de l'ordre. Dans un pays à l'économie exsangue, le peuple appelle en effet au renversement du gouvernement que mène Saad Hariri. Bonsoir Jean-Yves Baout.
Bonsoir.
Vous êtes politologue à Sciences Po Paris, spécialiste du Liban. Merci d'avoir accepté notre invitation. Affairisme, corruption. Merci à vous. Affairisme, corruption de la classe politique, cherté de la vie. Les manifestants font état, comme vous le savez, de lourds passifs depuis si longtemps. Pourquoi, monsieur Baout, cette étincelle déclenche-t-elle Paris incendie, la révolte d'un bout à l'autre du pays? J'ai parlé d'une révolte contre les taxes sur une certaine messagerie.
En fait, ça a été le déclencheur immédiat de la descente dans la rue hier de toutes ces foules, qui a été une décision complètement stupide du ministre des Télécommunications, qui a décidé d'imposer une énième taxe sur la messagerie WhatsApp qu'utilisent les Libanais, parce que ça leur permet en fait de ne pas utiliser leur ligne de téléphone et donc de ne pas payer. Une décision d'imposer une taxe de 6 dollars par mois, ça a été un peu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais en fait, le feu était déjà largement sous la cendre. Ça fait plusieurs quand même week-ends que sporadiquement il y a des mouvements de protestation, des occupations de rue qui ne sont pas très, disons, très tenaces, qui ne durent pas très longtemps. Cette fois, apparemment, la goutte d'eau a fait déborder le vase et on est là où on est. Mais en fait, comme vous le disiez, c'est contre une situation structurellement pratiquement complètement pourrie et presque irréparable que les gens se révoltent, c'est-à-dire une crise économique qui n'en finit pas de traîner, des réformes promises par un gouvernement d'union nationale mais qui sont complètement en fait paralysées par justement l'unité nationale qui fait que au fond il n'y a aucune décision qui est prise et une classe politique qui est devenue unanimement considéré comme une classe plutocratique par l'ensemble des Libanais. Donc c'est tout ça qui a mis le feu aux poudres. Et derrière les slogans purement socio-économiques, on commence un peu à voir timidement quelques slogans politiques moindres, c'est-à-dire le désir de se débarrasser d'une oligarchie qui est là depuis 92, toutes nuances confondues, malgré le clivage traditionnel au Liban entre 14 et 8 mars, toutes communautés confondues aussi. Et pour la première fois depuis très longtemps, et peut-être depuis toujours, ce n'est plus seulement Saad Hariri ou d'autres ministres ou députés qui sont mis en cause, mais même des icônes intouchables dans leur propre communauté, comme par exemple le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ou le président du Parlement, Nabih Berri, ou le président de la République, qui était jusque-là épargné par la vindicte populaire, au moins en raison de la peur que cela pouvait... puisque les représailles sont très... Alors, tous ces thèmes sont tombés hier soir et aujourd'hui, les gens crient leur...
On a des difficultés, j'espère que ça va s'arranger chemin faisant, Joseph Baout, à vous comprendre à cause de cette ligne téléphonique dont la qualité laisse à désirer, mais tout de même, essayons de poursuivre. Vous dites l'éthique politique en berne dans ce pays qu'est le Liban. Monsieur Hariri a-t-il les outils et les appuis pour, à défaut de trouver une solution, s'offrir un peu de temps au moins pour réagir?
Saad Hariri a essayé de s'acheter du temps ce soir dans sa déclaration, mais il s'est acheté un temps très court, 72 heures, et je crois qu'il s'est acheté un temps complètement inutile, puisqu'il, ce qu'il dit, c'est, on a 72 heures pour montrer aux gens, à la rue, au public, notre sérieux dans ce que nous voulons entreprendre. Bon, tout le monde sait qu'en 72 heures, il n'y a rien du tout. En fait, je pense tout simplement, il s'est laissé un tout petit peu de marge pour se concerter avec ses partenaires au gouvernement, essentiellement, la force chrétienne des forces libanaises et la force druze de Walid Jumblatt, qui, eux, appellent ouvertement à démissionner, à sortir du gouvernement. Je pense, d'après ce que je comprends, qu'ils finiront par sortir dans les 24 heures qui viennent. Et donc, Saad Hariri, à ce moment-là, je ne peux plus de toute façon gouverner sans majorité. Et donc, ce gouvernement partira. Donc, il essaye un tout petit peu d'acheter du temps. C'est un peu pathétique. Une déclaration assez pathétique, il faut dire, puisqu'il n'avait pas le courage de dire voilà, je n'ai plus les moyens de gouverner, je m'en vais. Donc il essaye en fait de trouver un moyen détourné d'arriver à la même solution. Donc je pense que dans 72 heures, on se retrouvera pratiquement dans la situation d'aujourd'hui, avec un risque supplémentaire, c'est que ces 72 heures-là soient occupées par une violence qui devient de plus en plus larvée dans la rue, avec des affrontements. Il y a déjà 2 morts à Tripoli, donc les choses peuvent déraper malheureusement.
D'un dernier mot et conclusif, Joseph Baout, en pleine crise syrienne, inquiétude déjà eu égard à cet abandon américain des Kurdes. Est-ce que le Liban peut craindre, aidé qu'il est par les finances américaines, d'être à son tour abandonné?
Bah, tout à fait, et ça pèse sur la crise, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la crainte d'un lâchage américain total, mais aussi la crainte de sanctions accrues par les Américains si le Hezbollah devient très visible au pouvoir, puisqu'il y a déjà un train de sanctions en cours. Et d'autre part, le lâchage américain du partenaire syrien fait beaucoup craindre justement à des forces comme Walid Jumblatt, comme Saad Hariri ou comme les forces libanaises, que justement les États-Unis et derrière eux les Occidentaux les laissent complètement tomber, qu'ils se retrouvent en face à face avec le régime syrien qu'ils ont longtemps combattu. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui des gens comme Walid Jumblatt ou Samir Jaja sont en train de prôner la sortie du gouvernement en disant de toute façon cette configuration régionale n'est pas la nôtre, il vaut mieux laisser le Hezbollah gouverner tout seul et prendre le chemin de l'opposition et peut-être même de la résistance quelque part politique ou civile.
Bien, merci infiniment. Merci Joseph Baout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politologue à Sciences Po Paris, bien sûr spécialiste du Liban. Bientôt, merci. Patrick Balkany, condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, 4 ans ferme, sans mandat de dépôt pour Isabelle Balkany. Les époux Balkany ont été par ailleurs relaxés dans le volet corruption de cette affaire qui a déjà valu à Patrick Balkany d'être emprisonné à la santé une peine de 4 ans de réclusion. Il n'est pas question d'incarcération pour Isabelle Balkany, Florence Thur, mais c'est une peine plus lourde que celle requise par le parquet.
Oui, Isabelle Balkany est restée assise aux côtés de son avocat durant toute la lecture du jugement. Au moment de l'énoncé de la peine, elle revient à la barre près de son fils Alexandre. Il passe son bras autour de sa taille. 4 ans de prison ferme, 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale, alors que le parquet n'avait requis qu'un simple sursis et une amende. 5 ans d'emprisonnement, un nouveau mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité pour l'absent Patrick Balkany. Le président insiste sur la gravité des infractions pénales, l'atteinte à l'ordre public et économique, la déchirure du pacte républicain. Isabelle Balkany quitte le tribunal sur cette courte déclaration.
Comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas un centime d'argent public, c'est uniquement notre patrimoine familial et il n'y a pas de corruption.
pas de condamnation pour corruption. Effectivement, le tribunal considère que les preuves matérielles n'ont pas été rapportées d'un pacte entre Patrick Balkany et Mohamed Al-Jaber, l'homme d'affaires saoudien. L'accusation soutenait qu'il avait offert un riad à Marrakech aux époux Balkany en échange de délais de paiement dans un juteux projet immobilier à Levallois. La peine infligée par ailleurs à Patrick Balkany apparaît donc bien trop lourde aux yeux de son avocat Antoine V.
D'un côté, pas de pacte de corruption, pas de trafic d'influence, et surtout ce que dit ce jugement, c'est absolument pas un euro d'argent public qui aurait été détourné au bénéfice du couple Balkany. Nous ferons appel de ces deux jugements, et on a envie de dire aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est que Patrick Balkany n'a absolument rien à faire en détention, que son état de santé se dégrade, et qu'il est temps qu'on puisse le remettre en liberté pour qu'il puisse préparer sa défense libre devant la cour d'appel dans les prochains mois.
Il y aura donc un deuxième procès quant à la demande de mise en liberté de Patrick Balkany. Elle sera examinée mardi prochain.
Florence Sturm, le temps de demain samedi, le plus souvent nuageux, des averses essentiellement sur le littoral. Édition préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Marie-Claire Oumabadi.